Aristote, Rhétorique, Livre 3, Chapitre 2. Sur les qualités principales du style. 1. Telles étaient les considérations à faire valoir. Maintenant, on devra établir que le mérite principal de l'élocution consiste dans la clarté. La preuve, c'est que le discours, s'il ne fait pas une démonstration, ne remplit pas son rôle. Il consiste aussi à ne tomber ni dans la bassesse, ni dans l'exagération, mais à observer la convenance, car l'élocution poétique ne pêche sans doute point par la bassesse, mais elle ne convient pas au discours en prose. 2. Parmi les noms et les verbes, ceux-là rendent l'élocution claire qui sont des termes propres. Quant à ce qui a pour effet de lui ôter la bassesse et de lui donner de l'élégance, ce sont d'autres termes qui ont été expliqués dans le traité de la poétique. En effet, la substitution d'un mot à un autre donne à l'élocution une forme plus élevée, car l'effet différent que produisent sur nous des étrangers et nos concitoyens est produit également par l'élocution. 3. Voilà pourquoi il faut donner au langage un cachet étranger, car l'éloignement excite l'étonnement, et l'étonnement est une chose agréable. En poésie, plusieurs éléments amènent ce résultat, et sont de mise dans ce genre-là, attendu que l'on voit de plus loin les choses et les personnes dont il est question. Mais dans le discours pur et simple, ces éléments sont beaucoup moins nombreux, car le sujet est moins relevé. D'autant plus que, dans ce genre-ci, soit qu'on fasse parler le bon langage à un esclave ou à un tout jeune homme, ou qu'on l'applique à des sujets tout à fait secondaires, l'inconvenance n'en sera que plus sensible. Toutefois, même pour traiter de tels sujets, la convenance se prêtera tantôt au langage condensé, tantôt à l'ampleur. Aussi doit-on parler ainsi sans laisser voir l'art, et s'appliquer à ne pas paraître usé d'un langage apprêté, mais naturel. Car celui-ci amène la conviction, et celui-là produit l'effet contraire. En effet, on est alors prévenu contre l'orateur comme s'il était insidieux, de même qu'on se défie des vins mélangés. C'est ainsi que la voix de Théodore prévenait ses auditeurs contre celle des autres acteurs. La sienne ressemblait à celle du personnage, tandis que celle des autres paraissait affectée. 5. L'artifice se dérobe heureusement lorsque l'on compose un discours en choisissant ses termes dans le langage de la conversation. C'est ce que fait Euripide, et c'est lui qui, le premier, a donné l'exemple. Comme le discours est formé de noms et de verbes, et qu'il y a autant d'espèces de noms qu'on l'a exposé dans la poétique, il faut n'employer que rarement et en peu d'occasions les mots étrangers, les mots composés et les mots forgés. Quelles sont ces occasions, nous le dirons plus tard. Pour quel motif elles sont rares, nous l'avons dit. C'est que l'on s'éloigne ainsi davantage du style convenable. 6. Le terme propre et familier, la métaphore. Telles sont les seules expressions utiles pour l'élocution dans le discours pur et simple. La preuve en est dans ce fait que tout le monde n'emploie que celle-là. En effet, tout le monde use des métaphores dans la conversation, ainsi que des termes familiers et propres. Et par suite, il est évident que si l'on procède avec habileté, on aura un langage étranger. L'art se dérobera et l'on sera clair, ce qui était tout à l'heure la qualité principale du langage oratoire. 7. Parmi les noms, les homonymies sont surtout utiles aux sophistes, car c'est grâce à elles qu'il accomplit sa mauvaise action. Les synonymies seront surtout utiles aux poètes. Or, je parle ici des termes à la fois synonymes et propres. Par exemple, marcher et aller, qui sont tous deux propres et synonymes l'un de l'autre. Qu'est-ce que signifie chacune de ces qualifications? Combien y a-t-il d'espèces de métaphores? Quelle en est la valeur, soit en poésie, soit dans le discours? Encore une fois, on l'a dit dans la poétique. 8. Pour le discours, il faut apporter d'autant plus de travail dans leur application que cette forme de langage a moins de ressources comparée à la versification, que la clarté, l'agrément du style et sa physionomie étrangère sont particulièrement du ressort de la métaphore et que l'on ne peut trouver cet avantage ailleurs. 9. Il faut aussi parler des épithètes et des métaphores convenables. Cela résultera de l'analogie. Si celle-ci n'existe pas, la métaphore paraîtra manquer de convenance, vu que ce sont les contraires qui paraissent se prêter le mieux au parallèle. Seulement, il faut examiner, si l'on donne une robe de pourpre au jeune homme, quelle robe on donnera au vieillard? Car le même vêtement ne convient pas aux deux âges. 10. Si tu veux glorifier, il faut tirer la métaphore de ce qu'il y a de meilleur parmi les choses du même genre. Si tu veux blâmer, la tirer de ce qu'il y a de plus mauvais. J'entends par exemple que, comme il y a des contraires dans un même genre, dire que l'un, en mendiant, fait une prière et que l'autre, en faisant une prière, mendie, par cela même que des deux côtés il y a des demandes, c'est là faire la chose en question. Iphicrate disait que Callias était un quêteur de Cybèle et non pas un porte-flambeau. Et celui-ci répondit qu'Iphicrate était lui un non-initié, que, autrement, il ne l'aurait pas appelé un quêteur de Cybèle, mais un porte-flambeau. En effet, les deux termes s'appliquent au culte divin. Seulement, l'un est honorable et l'autre ne l'est pas. Autre exemple. Il y a des gens qui qualifient du nom de flatteur de Dionysos ceux qui, entre eux, s'appellent des artistes. Or, ces termes sont tous deux des métaphores appliquées l'une par des gens qui veulent avilir la profession, l'autre par des gens qui veulent faire le contraire. Ce sont encore dans le même esprit que les brigands se donnent entre eux aujourd'hui le nom d'agents d'approvisionnement. De là vient que, de celui qui a causé un préjudice, on peut dire qu'il a fait erreur, et de celui qui a fait erreur, qu'il a causé un préjudice, ou de celui qui a fait disparaître, qu'il a pris ou qu'il a pillé. Dans le vers du Télève de Ripide, commandant aux rames et ayant fait voile vers la Mysie, il y a manque de convenance, parce que commander dit plus qu'il ne faut. Le poète n'a donc pas dissimulé le procédé. 11. Il y a faute aussi dans les syllabes si elles ne représentent pas un son agréable, comme par exemple lorsque Denis, l'homme d'Airain, dans ses élégies, nomme la poésie le cri de Calliope. Au lieu de chant, attendu que les deux mots signifient un son, mais la métaphore est mauvaise, étant emprunté à des sons non mélodieux. 12. En outre, il ne faut pas tirer de loin les métaphores, mais les emprunter à des objets de la même famille et de la même espèce, de façon que, si les choses ne sont pas nommées, on leur donne l'appellation qui se rattache manifestement au même ordre d'idées. Exemple, cette énigme bien connue. J'ai vu un homme qui, avec du feu, collait de l'airain sur la peau d'un autre homme. L'action subie n'est pas nommée, mais dans les termes, il y a une idée d'application. L'auteur a donc appelé collage l'application de la ventouse. Au surplus, il faut, absolument parlant, emprunter des métaphores modérées à des allusions convenablement énigmatiques, car les métaphores sont des allusions. Et c'est à quoi l'on reconnaît que la métaphore a été bien choisie. 13. Il faut aussi les emprunter à de belles expressions. Or, la beauté d'un mot, comme le dit Licinius, réside ou dans les sons ou dans la signification. La laideur d'un mot, pareillement. En troisième lieu, il y a ce qui renverse un raisonnement sophistique. Car il ne faut pas dire comme raison qu'une parole ne sera jamais déplacée si la signification est la même, soit que l'on emploie telle expression ou telle autre. Cela est faux, car tel terme est plus propre qu'un autre, même plus rapproché de l'objet dénommé et plus apte à représenter la chose devant les yeux. De plus, tel mot comparé à tel autre n'a pas une signification semblable. Et par suite, il faut établir que l'un sera plus beau ou plus laid que l'autre. En effet, tous deux servent à marquer la signification de ce qui est laid et de ce qui est beau, mais non pas en tant que beau et non pas en tant que laid, ou s'il en est ainsi, il y aura du plus ou du moins. Voici d'où l'on doit tirer les métaphores. Des mots qui aient de la beauté dans le son, ou dans la valeur, ou dans leur aspect, ou enfin, par quelque autre qualité sensible. Il est préférable de dire, par exemple, « aux doigts de rose » plutôt que « aux doigts de pourpre » ou, ce qui est encore plus mauvais, « aux doigts rouges ». 14. Dans le choix des épithètes, on peut employer des appositions tirées de ce qui est mauvais ou laid, comme par exemple le meurtrier de sa mère. On peut encore les tirer de ce qui est meilleur, comme le vengeur de son père. Simonide aussi, comme certains vainqueurs aux courses de mules lui accordaient une rémunération trop faible, refusa de composer une poésie en son honneur, alléguant qu'il lui répugnait de chanter à propos de mulet. Mais l'autre lui accordant une somme suffisante, il fit ce vers. Salut, fille de cavale rapide comme la tempête, bien que ces mules fussent aussi filles des ânes. 15. Ajoutons l'atténuation. On distingue, entre autres, celle qui affaiblit l'importance du bien ou du mal. C'est ainsi qu'Aristophane emploie, en manière de plaisanterie dans les Babyloniens, le terme de miette d'or pour or, petit vêtement pour vêtement, petite injure pour injure, petite maladie pour maladie. Seulement, il faut user avec prudence des diminutifs et observer une juste mesure dans l'emploi de l'un ou de l'autre terme.